Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter Radio Orient, votre rendez-vous d'information de la mi-journée avec Nawal El Amouchi et François-Xavier de Calonne. Au sommaire de ce point actualité, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été jugé coupable ce jeudi d'association de malfaiteurs, mais relaxé des faits de corruption qui lui étaient reprochés dans l'affaire de soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Au Proche-Orient, à Gaza, 11 personnes sont mortes dans une frappe israélienne sur une maison qui abritait des déplacés dans l'enclave. Et le gouvernement danois va acquérir de nouveaux moyens de détection et de neutralisation de drones après de nouveaux survols d'aéroports par des drones d'origine inconnue. C'est l'objet de notre dossier du jour à suivre. Nous l'avons évoqué dans les titres, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été jugé coupable dit d'association de malfaiteurs, mais relaxé des faits de corruption qui lui étaient reprochés dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. La présidente du tribunal a expliqué qu'il était coupable d'association de malfaiteurs pour avoir laissé ses proches collaborateurs agir en vue d'obtenir des soutiens financiers de la part du régime libyen. Et l'ancien proche collaborateur de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, a été reconnu coupable de corruption passive et de faux. Brice Hortefeux, ancien ministre, a été lui jugé coupable d'association de malfaiteurs. Dans l'actualité au Proche-Orient, à Gaza, 11 personnes sont mortes dans une frappe israélienne sur une maison qui abritait des déplacés dans l'enclave. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a critiqué les dirigeants qui ont récemment reconnu un État palestinien avant de partir pour les États-Unis où il doit s'exprimer devant l'ONU et rencontrer notamment le président Donald Trump. Emmanuel Macron et l'émissaire spécial américain ont annoncé hier que l'Iran avait encore une chance d'éviter des sanctions de l'ONU à condition de répondre aux préoccupations concernant son programme nucléaire. Et enfin, dans le reste de l'actualité, le gouvernement danois va acquérir de nouveaux moyens de détection et de neutralisation de drones après de nouveaux survols d'aéroports par des drones d'origine inconnue. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Place au dossier du jour. Le spectre de la Russie plane sur le survol de drones au-dessus de plusieurs aéroports au Danemark. Cela a enchaîné la fermeture de l'un d'eux pendant plusieurs heures. Ces incidents dans le ciel danois interviennent après des événements similaires en Pologne et en Roumanie. On fait le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Oui, aussi la violation de l'espace aérien estonien par des avions de chasse russes. Le ministère estonien des Affaires étrangères assure que l'incursion avait duré 12 minutes. L'Italie, la Suède, la Finlande avaient fait décoller des appareils pour chasser ces avions. C'était vendredi dernier. Les États-Unis ont promis lundi de défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Question, que se passerait-il si un avion de chasse survolait Paris? Eh bien, pour le député français Frédéric Petit, membre de la Commission des Affaires étrangères, il serait abattu. C'est ce qu'il a affirmé au micro de Radio Orient. Alors, revenons à ce qui s'est passé dans le ciel danois. Les drones ont été repérés dans les aéroports d'Aalborg dans le nord, d'Esbjerg dans l'ouest et de Sønderborg dans le sud. Ils sont repartis sans interventions extérieures. Ces drones, ces avions sans pilote volaient avec des lumières. Ils ont été observés depuis le sol. Lundi déjà, des drones à l'origine non identifiés avaient survolé l'aéroport de Copenhague ainsi que celui d'Oslo en Norvège. Et cela avait bloqué le trafic aérien de ces deux pays pendant plusieurs heures.
Et pourquoi la Russie est-elle soupçonnée d'être à l'origine de ces incursions, François-Xavier?
Bon, une fois n'est pas coutume, mais paraphrasons exceptionnellement Agatha Christie. Une coïncidence est juste une coïncidence. Deux sont un indice et trois sont une preuve. Et ces incidents interviennent une semaine après l'annonce par le Danemark de l'acquisition pour la première fois d'armes de précision à longue portée, des armes destinées à frapper des cibles lointaines. Copenhague estime que la Russie représente une menace pendant des années. Et le week-end dernier, plusieurs autres aéroports européens, notamment à Bruxelles, Londres et Dublin, Berlin également, ont été perturbés. perturbée par une cyberattaque. Cela fait beaucoup, une cyberattaque dont l'origine n'a pas été communiquée. C'est pourquoi la première ministre du Danemark a dénoncé l'attaque la plus grave contre une infrastructure critique dans le pays, affirmant ne pas exclure qu'il s'agisse de la Russie. Et cela s'inscrit, a-t-elle dit, dans l'évolution que nous avons pu observer dernièrement avec d'autres attaques de drones, des violations de l'espace aérien et des cyberattaques contre des aéroports européens, ce que nous venons donc de mentionner, Nawel. Une coïncidence est donc juste une coïncidence. Deux sont un indice, trois une preuve. C'est une romancière qui l'a dit dans la dernière enquête d'Hercule Poirot. Il meurt à la fin sans l'avoir résolu. Gageons que la réalité d'aujourd'hui surpasse la fiction d'hier et que les responsables de ces incursions seront identifiés.
Merci beaucoup François-Xavier de Calonne pour toutes ces précisions. Et direction le Proche-Orient maintenant. Gaza connaît une crise humanitaire sans précédent avec plus de 62 000 morts, dont plus de 18 000 enfants et près de 39% de la population qui passe désormais plusieurs jours sans manger. L'ONU a confirmé qu'une famine ravageait l'enclave. Ce contexte critique intervient alors que la reconnaissance de l'État de Palestine par la France et certains pays occidentaux intensifient l'appel à l'action internationale. Mais quel impact direct cette reconnaissance aura sur la situation des populations dans la bande de Gaza? Pour Ahmed Benchemsi, directeur de la communication de Human Rights Watch Moyen-Orient et Afrique du Nord, l'impact de cette reconnaissance n'est pas forcément direct, mais il dit espérer que cela pourrait aider à accentuer la pression sur Israël. On l'écoute.
Écoutez, il ne va pas avoir d'impact direct, mais nous espérons qu'elle aura un impact indirect, c'est-à-dire contribuer à accentuer la pression sur Israël pour qu'il cesse ces actes de génocide et de crimes contre l'humanité commis chaque jour. La situation à Gaza est absolument intenable. La crise humanitaire est d'une ampleur sans précédent. On parle de dizaines de milliers de morts, la quasi-totalité de la population déplacée à plusieurs reprises, ce qui constitue un crime contre l'humanité, des pénuries extrêmes. Pas d'abri, pas de nourriture, pas d'eau potable, soins médicaux, éducation, enfin, on pourrait en parler des heures. Donc la reconnaissance d'un État de l'État palestinien n'aura pas d'impact direct sur ces choses-là, mais on espère qu'elle aura un impact indirect dans le sens qu'elle va mettre sous pression Israël pour enfin s'en tenir à ses obligations en vertu du droit de la guerre, du droit international.
Et que peut faire la communauté internationale pour que cette reconnaissance ait un impact réel sur la situation des Palestiniens ?
Il faut l'accompagner de mesures concrètes visant à pressuriser Israël. Il faut suspendre toute aide militaire et tout transfert d'armes immédiatement à Israël, tant que ces forces continuent en toute impunité à commettre des actes de génocide et des crimes contre l'humanité et autres crimes de guerre massifs. Il faut passer en revue avec beaucoup de sévérité les accords de coopération bilatérale, en tout cas les soumettre à conditions, si ce n'est y mettre fin, interdire le commerce évidemment avec les colonies illégales, ça c'est un problème qui remonte à bien avant, le 7 octobre 2023. Il faut aussi faire pression pour que la responsabilité pénale s'exerce, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne qui ont reconnu, enfin les pays du monde maintenant, plusieurs de l'Occident, qui ont reconnu l'État de Palestine, ce serait bien si aussi ils poussaient pour engager des procédures sur la base de compétences universelles. Et aussi soutiennent pleinement les enquêtes de la Cour pénale internationale qui a émis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, et soutiennent ces procédures, à l'heure d'ailleurs où la Cour pénale est largement attaquée par l'administration Trump aux États-Unis. Ils doivent aussi des sanctions ciblées contre les responsables israéliens. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, concrètes, pour donner corps à cette reconnaissance. Il ne s'agit pas uniquement de faire un geste diplomatique, mais il s'agit de réagir face à une crise d'une ampleur sans précédent. Écoutez, j'espère que cette reconnaissance ne sera pas un prétexte pour ne pas mettre en place ces mesures. J'espère que les pays qui ont reconnu l'État de Palestine ne vont pas se satisfaire de cette reconnaissance en pensant qu'ils ont fait un grand pas en avant et s'abstenir de mettre en place ces mesures. Parce que la reconnaissance de la Palestine est un geste symbolique, mais ces mesures-là ne sont pas symboliques, elles. Elles sont tout à fait concrètes et elles visent à enrayer un massacre qui a lieu sous les yeux de l'humanité.
C'était Ahmed Benchemsi, directeur de la communication de Human Rights Watch Moyen-Orient et Afrique du Nord, au micro de Swada Karmani. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.
Vous pouvez écouter Radio Orient sur Internet www.radioorient.com.